Zamba.
Zambi la Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonsoir ou bonjour selon votre position géographique. Nous sommes dimanche le 12 décembre 2021. C'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. À la présentation, Josine Kazé. Commençons cette rétrospective de l'actualité par cet incendie qui a causé beaucoup de pertes en vies humaines à la prison centrale de Gitega. Le bilan annoncé dans l'après-midi de ce mardi fait état de 36 prisonniers qui sont morts et 69 grièvement blessés, dont 34 hospitalisés à l'hôpital régional de Gitega. Cet incendie, comme l'a expliqué le vice-président de la République, Prosper Bazombanza, qui s'était déplacé à Gitega pour le constat, a fait savoir que cet incendie était dû aux installations anarchiques bricolées par les prisonniers. Suivez le vice-président de la République, Prosper Bazombanza.
Ce genre d'installations supplémentaires et faits anarchiquement causent souvent des dégâts énormes. Et c'est donc à 4h du matin que cet incendie s'est déclaré. Nous en profitons pour remercier très sincèrement tous les intervenants qui, à partir de 4h du matin, ont pris le devant pour que le feu puisse être maîtrisé. Je vois des gens qui ont pu disposer des ambulances, d'autres des véhicules pour la maîtrise du feu. Comme dégâts sur les 1500 prisonniers, nous déplorons malheureusement 38 morts, dont 12 asphyxiés et 26 morts par brûlure profonde. Nous constatons aussi que 69 personnes sont blessées, dont 34 qui sont ici en traitement médical. Ici à l'hôpital de Gitega, et 35 qui se sont fait soigner directement à la prison parce que c'était des brûlures qui n'étaient pas profondes. Les 35 sont déjà partis, ils ont gagné les autres prisonniers parce que c'était des brûlures qui ne sont pas profondes. Et sur les 34 hospitalisés ici à l'hôpital de Gitega, ceux qui les suivent, les médecins, viennent de nous rassurer qu'ils sont catégorisés en deux. Il y en a qui ont subi des brûlures plutôt profondes ici à côté, et d'autres qui sont de brûlures assez supportables ici dans les tentes. Mais je voudrais en profiter pour rassurer aussi ceux qui sont sous traitement que toute la facture relative à leur prise en charge médicale, que cette facture sera entièrement supportée par le gouvernement laborieux, le gouvernement travailleur, sous la roulette de son excellence, le général-major, le vice-président.
L'incendie qui s'est déclaré à la prison centrale de Gitega n'est pas du tout lié à un court-circuit causé par des installations anarchiques, comme l'a fait savoir le vice-président de la République, Prosper Bazombanza. C'est la réaction d'Albert Nsengiyumva, chercheur en énergie renouvelable, qui dit que si réellement c'était en court-circuit, même les installations de la Régie des eaux seraient endommagées, ce qui n'est pas le cas. Suivez.
Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. En fait, un court-circuit, c'est quoi? Il y a eu un court-circuit, bien le court-circuit a eu lieu quand il y a un contact entre deux fils du circuit. En plus, il faut que ça soit alimenté. Pour les charges, ou bien d'une façon générale dans le principe de l'électricité, un dipôle ou bien récepteur est un court-circuit si ces deux bornes sont reliées par le fil de connexion. Sinon, il n'y a pas de court-circuit. Les effets ou bien les conséquences dépendent du montage. Prenons par exemple le montage en série, le dipôle en question, qui est court-circuité, n'est pas alimenté, tandis que les autres restent alimentés, même si le dipôle à côté est en court-circuit. Il peut y avoir un problème si tous les dipôles sont court-circuités aussi. Là, l'effet va se passer au niveau du générateur qui va subir, donc parce qu'il n'y a pas de récepteur qui va limiter le passage du courant, donc le générateur s'échauffe et se détériore très 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 rapidement. C'est là où on va voir sa grille même, soit les transformateurs ou bien les centrales. Ça c'est un montage en série. Pour un montage en dérivation ou montage en parallèle, c'est ce qui se passe dans nos maisons. Je pense que c'est ce qui se passait aussi à la prison centrale. Tous les dipôles ou bien tous les récepteurs sont en dérivation sur le générateur. Là, le générateur, il faut comprendre, c'est la régie des eaux. Parce que c'est lui qui va alimenter jusqu'au compteur, c'est la régie des eaux. C'est la partie régie des eaux. Et l'autre côté, c'est la partie prison centrale, prenons le cas. Alors, s'il y a un court-circuit, comme le premier vice-président l'a dit, s'il y a un court-circuit dans la prison, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va voir que le courant va prendre le chemin le plus court. C'est pourquoi on dit court-circuit. C'est le chemin le plus court. Il va y avoir le courant qui va passer donc par le court-circuit et va passer d'une borne à l'autre du générateur sans passer par les autres récepteurs. Le générateur principal est en court-circuit aussi. Là, le générateur principal, il faut entendre la régie des eaux. Le courant devient très très intense et les fils s'échauffent et il y a un incendie. Ce qui n'a pas été le cas, parce que si c'était le cas, on allait voir les effets ou bien les équipements de la régie des eaux être endommagés, mais ça n'a pas été le cas. Pour moi, c'est pas la raison qui a causé l'incendie d'une façon technique. On peut laisser peut-être le temps pour les investigations pour savoir vraiment qu'est-ce qui a causé. Sinon, si le circuit est protégé, il peut pas y avoir un incendie à la hauteur de toute la prison. Parce que chaque compartiment ou bien chaque appartement ou bien compartiment, je sais pas comment est construit, doit être protégé. C'est ce qui se passe, ou bien les fusibles, ou bien les disjoncteurs sont là pour protéger chaque partie. Alors, la régie des eaux jusqu'au compteur a sa partie où elle protège, ou bien elle protège. Si on n'a pas vu les effets néfastes du côté de la régie des eaux, c'est que le court-circuit n'est pas vraiment le moteur de cet incendie.
Ces prisonniers qui sont morts dans cet incendie ont été enterrés la nuit au cimetière de Kivumu dans la localité de Lutoke, dans la zone Mungwa, en commune et province Gitega. Cette inhumation clandestine des victimes de l'incendie viserait à cacher le nombre réel des morts.
Inzamba.
Au chapitre des droits de l'homme, plusieurs personnes innocentes ont été sauvagement tuées par les forces de l'ordre dans la nuit du 11 et 12 décembre 2015. Ces massacres se sont passés dans les quartiers qui ont contesté le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. L'armée burundaise a expliqué que les personnes tuées étaient des rebelles, ce qui a été vite démenti par les habitants de ces quartiers. Les détails avec Joséphine Jones-Nzimana.
Tout a commencé dans la nuit du 11 au 12 décembre 2015. Pendant cette nuit, des hommes armés ont attaqué les camps militaires d'Ongagara, Baz, Iskam et Mujedjuru. Pendant les affrontements, il y a eu des morts et des blessés de tous côtés. Furieux, les militaires et policiers se sont attaqués aux habitants des quartiers qui ont contesté le troisième mandat anticonstitutionnel de Pierre Nkurunziza. Dans ces quartiers d'Ongagara, Mutakura, Chibitoke, Jabe et Nyakabiga, ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Ils entraient même dans les maisons pour tuer des citoyens paisibles, surtout les jeunes. Ils violaient également les filles et les femmes. Le matin du 12 décembre, il y avait plusieurs cadavres dans les rues de Nyakabiga et Musaga. Ils ont été évacués par les militaires et les autorités locales et ont été conduits dans des lieux inconnus. Le porte-parole de l'armée de cette époque, Gaspard Baratuza, a avancé le chiffre de 79 rebelles tués, 45 capturés, 4 militaires et 4 policiers tués. Ces chiffres ont été vite démentis par les associations de la société civile qui indiquent que plusieurs personnes tuées étaient des civils qui n'avaient rien à voir avec l'attaque de ces camps militaires.
Plus d'une dizaine d'organisations de la société civile burundaise indépendante fustigent l'inaction de la justice burundaise pour établir les responsabilités et punir les auteurs de ces crimes. Dans une déclaration qu'elles ont sortie à l'occasion de ce triste anniversaire, ces organisations ont demandé la poursuite des enquêtes auprès de la Cour pénale internationale afin que la vérité éclate au grand jour. Maître Dieudonné Bachelard-Ishizé parle au nom de ces organisations.
Jusqu'à maintenant, aucune enquête crédible n'a eu lieu, aucun responsable n'a été présenté devant la justice pour être jugé. Les victimes vivent dans l'angoisse et la douleur. Les auteurs bénéficient d'une protection de la part du régime burundais. La société civile honore la mémoire de ces illustres disparus qui ont été tués par un gouvernement qui était censé les protéger. Et nous continuons à réclamer la justice auprès du pouvoir burundais qui doit se ressaisir. Et nous continuons à réclamer aussi la poursuite des enquêtes auprès de la Cour pénale internationale pour briser le cycle de l'impunité, pour briser cette culture de l'impunité chronique qui fait que le Burundi vive toujours dans la hantise de la résurgence de la violence. Nous commémorons ce 6e anniversaire au moment où les crimes contre l'humanité continuent, comme l'a si bien souligné la Commission internationale d'enquête sur le Burundi qui vient de clore ses activités. Et nous regrettons que jusqu'à maintenant, le chef de la diplomatie burundaise refuse toujours aux Nations Unies l'accès au territoire, une façon de confirmer que le gouvernement a beaucoup de choses à cacher. Je pense que les Burundais doivent être conscients de cette situation et exiger auprès de leur gouvernement plus de transparence, plus de respect des droits de la personne humaine. Le Burundi ne doit pas rester en marge des valeurs universellement partagées par l'humanité.
Le ministre des Relations extérieures a annoncé que le prochain rapporteur spécial des Nations Unies ne sera jamais autorisé à mettre le pied sur le territoire burundais. Et pour faire les choses en grand, le ministre Albert Shingiro avait invité les diplomates accrédités au Burundi et les représentants des organisations internationales pour un briefing relatif à cette annonce. Pour rappel, l'ONU avait annoncé en septembre dernier qu'elle ne reconduirait pas le mandat de sa commission d'enquête sur les droits de l'homme au Burundi et qu'en lieu et place, un reporter spécial serait dépêché sur place. Avant de clore cette rétrospective, c'était ce mercredi que l'abbé Emery Kwizera était transféré dans la prison centrale de Ngozi. Il est de la paroisse Mubuga, située dans la commune de Muruta en province Kayanza. Il est poursuivi par le parquet de Kayanza pour avoir tenté de tuer une jeune fille qu'il avait engrossée parce qu'elle avait refusé sa proposition de provoquer un avortement. Le parquet lui avait exigé de déménager vers la paroisse Luganza, au chef-lieu de Kayanza, où il était en garde à vue. Il a rejoint l'administrateur de la commune Muhanga, locataire de cette prison depuis hier, qui est poursuivi pour viol à sa domestique. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Passez un bon dimanche chez vous. À la prochaine.
Zamba. Zambi la Samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.